En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état du Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et puis on va commencer par un petit temps de méditation. Donc comme toujours, on prend quelques minutes pour détendre le corps complètement. Avec la colonne vertébrale bien droite, c'est un des points qui est très important. Le regard à l'oblique. Idéalement, on garde les yeux ouverts, c'est-à-dire on reste en contact avec tout ce qui nous entoure, y compris par la vue. Mais aucune tension dans le regard. Le regard est très détendu. Et on se détend tranquillement. On laisse tous les muscles se relâcher. Les épaules, les bras. Les muscles du visage, les joues, les sourcils. Voilà, on fait un petit scanner corporel et tranquillement, on laisse toutes les zones de tension se relâcher. Progressivement, de façon à être le plus détendu possible. Et si on n'y arrive pas, c'est pas un problème. On s'efforce d'être le plus détendu possible. S'installe progressivement dans l'instant présent, dans ce moment, qui comme tous les moments est particulier, il est nouveau, il a une coloration particulière, une atmosphère particulière, une température particulière. Donc on va à la rencontre de ce moment, on le goûte, en laissant tomber tout ce qui, toutes nos préoccupations relatives à ce qui s'est passé ou relatives à ce qui va se passer. On laisse tomber tout ça pour vraiment apprécier ce moment tel qu'il est. fait rien de particulier, on ne cherche pas une expérience particulière. Là, pendant juste ces quelques minutes, on se met aucune pression, aucun objectif à atteindre, on fait rien du tout. On se contente d'être conscient de l'environnement, des sons, de la chaleur. Ce qu'on ressent, et on s'autorise à être complètement détendu par rapport à ça. Alors j'ai bien conscience qu'il fait chaud et que si le fait de rester dans la pièce avec le masque c'est un problème et que vous avez besoin de sortir ou truc, vous n'hésitez pas, hein, personne se formalisera, hein, par rapport à ça. Et puis peut-être si je sens que justement l'atmosphère commence à être un peu étouffante, je raccourcirai l'enseignement, voilà, pour que ce soit pas trop, trop lourd. Alors ce que je voulais vous proposer jusqu'à la fin de l'année, c'est de parler des paramitas. Donc c'est un thème, peut-être on en a déjà parlé à Meudon, je me souviens plus. Les paramitas, oui, on en a déjà parlé, hein. Les paramitas, c'est donc ce qu'on appelle les vertus transcendantes. Voilà, je comptais vous en parler jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Paramita, ça veut dire para, ça veut dire au-delà, et mita, ça veut dire traverser. Les paramitas, ce sont les vertus qui vont nous permettre de sortir de notre état samsarique et nous permettre de passer sur l'autre rive, c'est-à-dire l'éveil, nous libérer de la souffrance et atteindre le bonheur ultime et parfait. Alors je vais l'introduire tranquillement. On va peut-être pas lancer tout de suite l'enseignement ce soir, mais juste introduire le contexte dans lequel on parle des paramitas, en parlant voilà, de la voie bouddhiste un peu plus en général. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, bonsoir, il y a quelqu'un qui me disait récemment, les bouddhistes, vous n'êtes pas très vous êtes pas très optimiste. Et d'un côté, on pourrait dire que c'est vrai. Si on comprend optimiste dans le sens tout ira bien, tout va bien se passer, si on comprend l'optimisme comme ça, bah, c'est vrai que le bouddhisme n'est pas totalement d'accord avec ça. Le Bouddha n'enseigne pas que tout ira bien, tout va bien se passer. Le Bouddha, il a commencé par enseigner il y a dukkha. Il y a la vérité de dukkha. C'est-à-dire la vérité de la... Quand on vit, on rencontre dukkha, on rencontre la souffrance, on rencontre la contrariété, on rencontre la frustration, on rencontre l'insatisfaction. Voilà. Et puis il dit c'est une vérité, c'est-à-dire il dit pas il y en a qui sont plus malins que les autres et qui rencontrent pas dukkha. Non, non, il dit tout le monde rencontre dukkha. Qui qu'on soit, quelle que soit notre culture, quel que soit notre sexe, quel que soit notre âge, on rencontre dukkha. Il dit dukkha, voilà, personne ne souhaite être malade, bah, et très souvent on tombe malade quand même. Personne ne souhaite vieillir, tout le monde vieillit. Tout le monde souhaite obtenir ce qu'il veut, et très souvent, ça n'arrive pas, dukkha. Et puis très souvent, on rencontre ce qu'on ne veut pas rencontrer. Ça aussi, c'est dukkha, et c'est une expérience qui est universelle. C'est ça la vérité de dukkha. Et ça nous amène à... Et quelque part, c'est une vérité sur laquelle on insiste beaucoup, parce que tant qu'on ne le comprend pas pleinement, bah, on cherche notre bonheur dans le fait de résoudre les problèmes, en espérant qu'un jour, on aura fini la liste de nos problèmes, et puis on pourra se dire, ça y est, je suis enfin tranquille. J'ai réglé ce problème, je suis enfin tranquille. Et on voit très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Très souvent, on peut être sûr, quand on a réglé un problème, qu'il y en a un autre qui se pointe. Voire il y en a plusieurs qui se pointent en même temps. Puis il y a des problèmes qui ne sont pas si faciles à résoudre aussi dans nos vies. Et puis il y a aussi des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et à la limite, c'est pas ça le problème. Du point de vue de le message du Bouddha, c'est de dire les problèmes. C'est pas ça le problème. Il y a dukkha, mais dukkha a une cause. La deuxième noble vérité, c'est la cause de dukkha, la cause de la souffrance. S'il y a une cause, donc c'est pas fatal. S'il y a une cause à ça, si on peut trouver l'origine, on va pouvoir s'en occuper de cette cause. Mais d'accord, d'abord il faut la voir, il faut la comprendre. Et le point central du dharma, de l'enseignement du Bouddha, c'est de dire la cause. C'est nous qui l'induisons. La cause est en nous. C'est nous qui induisons la souffrance. La cause n'est pas à chercher à l'extérieur. Le malheur n'est pas à chercher parce que les choses arrivent ou n'arrivent pas. En fait, la cause est à l'intérieur de nous. C'est dans notre façon de vivre les choses, dans notre façon d'expérimenter les choses, que se situe la cause de la souffrance. On se méprend sur comment les choses sont. Et donc, il va parler de la troisième noble vérité. Il existe la cessation de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance. Puisqu'elle a une cause, et donc, elle n'est pas fatale. Et donc, il va parler de l'éveil. On peut s'en libérer totalement. Et enfin, la quatrième noble vérité, il y a un chemin. Il faut suivre une méthode. Il faut suivre un chemin pour dissiper ce malentendu, pour dissiper la cause de la souffrance. Et donc ce qu'on est en train de nous dire là, c'est quelque chose qui est très important. C'est on est en train de nous dire que on doit arrêter de chercher la souffrance et le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que tant qu'on fait ça, on tourne en rond. Et on doit chercher comprendre que comment on induit la souffrance. Et alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on arrête de se préoccuper des situations. Quand on parle du chemin, quand on parle de gérer les situations, gérer nos problèmes, gérer nos émotions, etc., on a deux options. Soit on se préoccupe de la situation, de changer, de transformer la situation, de transformer, voilà, de façon à la rendre plus vivable, de façon à la rendre plus attrayante, de façon à s'aménager le plus de paix possible, Et ça, c'est ce que la plupart des gens font. Quand il y a un problème, bah, si on peut le résoudre, si on a les moyens de le résoudre, eh ben, on doit le faire. Et c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. À aucun moment on met ça de côté dans notre pratique du dharma. C'est quelque chose qui, non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. Si le problème a une solution, on le met, alors on le solutionne. Mais quand on travaille sur une situation, le résultat sera toujours temporaire. Ce sera toujours un résultat à court terme de travailler sur une situation, parce que tout change tout le temps, parce que on n'a pas toutes les cartes en main, parce que voilà, on a parlé beaucoup de l'impermanence, de tous les paramètres qui rentrent en jeu, de l'interdépendance qui font que on a un pouvoir très limité sur comment sont les choses, comment voilà, influencer les choses. Et la deuxième option, bah, c'est de travailler sur notre esprit. Et ça, c'est le sujet principal du dharma. On ne peut pas toujours travailler sur les situations. Et puis même quand on travaille dessus, bah, c'est toujours un résultat à court terme. Mais par contre, dans le dharma, on nous enseigne comment vivre les choses, comment travailler sur notre esprit, donc comment travailler sur notre façon de réagir aux choses, de vivre les choses. Comment, notamment, transformer les problèmes en opportunités. C'est-à-dire cesser de voir les problèmes comme étant des problèmes, cesser de voir les problèmes comme étant des obstacles, et apprendre à les voir comme des opportunités. Je parle des problèmes, mais aussi des situations favorables. Le dharma, il est vraiment question de ça. C'est d'arrêter de voir les situations favorables comme ça, c'est le bonheur, et les situations défavorables comme ça, c'est le malheur. On les met toutes dans le même panier et on dit, bah ça, c'est matière à transformer mon esprit, matière à réaliser l'éveil, matière à devenir plus patient, plus spacieux, plus bienveillant, plus compatissant. Voilà, il y a plein de méthodes qui vont nous être proposées pour nous inviter à voir ce qu'on considère comme étant un problème, comment je peux en tirer parti, comment je peux en tirer quelque chose de profitable, même quelque chose qu'on considère comme négatif. Comment je peux utiliser ma sagesse, comment je peux utiliser ma compassion, comment je peux utiliser ma créativité pour voir que ce problème, tant que je le considère comme un obstacle, ça reste un obstacle et je peux rien en faire. Je ne peux que souffrir, que le subir. Comment, avec le dharma, bah, j'apprends à le voir comme autre chose qu'un problème. Qu'est-ce que je peux en tirer? Et si dès lors j'arrive à le voir comme autre chose qu'un problème, c'est plus un problème. Ça peut s'appeler un challenge, ça peut s'appeler une opportunité, ça peut s'appeler bah, le chemin qui mène vers le truc. Mais c'est de ça qu'il est question. Et par exemple, pendant le confinement, on l'a vu, c'est sûr qu'on avait tous des situations très différentes qui font que bah, on n'était pas égaux par rapport à la situation dans laquelle on se retrouvait pour le confinement. Mais nous, les retours qu'on a eus au centre, alors nous, là, je ne vous cache pas que nous, le confinement, c'était vraiment... confiné au paradis avec dans un 700 mètres carrés avec des montagnes à perte de vue, des bois à perte de vue, et puis tout d'un coup on se retrouve en vacances. Alors moi j'étais avec quatre colocataires super sympas donc en gros wouh confinement génial, mais bon ça n'a pas été le cas de tout le monde quoi. On en était bien conscient. Et on avait beaucoup de retours de la Sangha qui nous appelait, qui nous envoyait des mails, notamment des gens qui ont beaucoup souffert de la solitude. La solitude, c'est un mot qui est beaucoup revenu pendant le confinement. Gens qui ont vraiment souffert de l'isolement, de la solitude, de ne plus pouvoir être en contact avec les gens qu'ils connaissaient. Ou alors le confinement huis clos avec toute la famille et puis les enfants bas âge et puis vraiment un contexte très oppressant parce que pas moyen de s'en sortir quoi. Voilà, pour beaucoup de gens ça a été très compliqué et puis je te remercie. Et en même temps on a vu
Ah oui.
Merci. Parce que du coup, près de la fenêtre, j'entends les voitures.
Bon après, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup de retours positifs, hein, des gens pour qui c'était intéressant parce qu'il y avait aussi des gens pour qui. Ça a été comme une sorte de soupape, quoi. C'est tombé au bon moment où ils avaient besoin un peu de s'extraire du milieu professionnel parce qu'ils étaient au bord du burn-out, des choses comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que dans cette période difficile, on a vu aussi des gens, et pour nous, pour la plupart d'entre nous, où on a fait preuve de beaucoup de créativité pour rendre ce moment finalement profitable. Il y en a qui ont profité pour des projets sur lesquels ils avaient toujours eu envie de travailler, puis tout d'un coup ils avaient du temps pour s'y mettre. Des gens qui en ont profité pour passer plus de temps avec leur famille, c'était l'occasion de passer plus de temps avec leur famille, pour lire des bouquins qu'on n'a jamais le temps de lire, pour jardiner, pour plein de choses. Pour les pratiquants, des gens qui se sont dit enfin je peux avoir un peu plus de temps pour lire des enseignements, pour pratiquer la méditation un peu plus chez moi, voilà. Et qu'on su faire de cette situation difficile quelque chose de profitable quoi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans le dharma, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire on parle de l'éveil, on parle de se libérer pleinement de la souffrance et d'atteindre c'est ce qui est dit, hein, une paix et un bonheur parfait. Mais il ne faut pas se mettre à envisager que quand on dit ça, c'est que les éveillés n'ont plus de problème. Que les éveillés sont des gens qui ne vivent pas le confinement, qui ne tombent pas malades, qui n'attrapent pas le Covid, qui n'ont pas de facture à payer. Non. Par contre, un éveillé, c'est quelqu'un qui sait profondément, comprend profondément que quelle que soit la situation qui peut se profiler à l'horizon, quel que soit le problème qui peut apparaître, on est en mesure de le gérer. On sait qu'on pourra le traverser. On sait qu'on a les moyens de le gérer. Et comme on a confiance en ça, une confiance qui s'étend à toutes les expériences, c'est-à-dire plus on avance dans le chemin, plus on est capable d'embrasser toutes les situations avec cette confiance qui devient de plus en plus vaste. C'est cette confiance qui nous rend paisible. C'est pas le fait qu'on est en paix parce qu'on n'a plus de problème. C'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, on sera capable de le gérer. Donc on n'a plus besoin d'être dans une logique de se mettre à l'abri de pourvu qu'il n'arrive rien, enfin de se mettre à l'abri de ce qui pourrait arriver, ou de trop s'accrocher quand les choses ça roule, tout va bien, etc. De développer une sorte d'arrogance ou de devenir insensible ou complaisant, ouais, moi ça roule, etc. Non, parce qu'on sait que tout ça, expérience défavorable, expérience favorable, c'est pas le bonheur et le malheur, c'est fluctuation de la vie. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc on se fait plus piéger par les apparences soi-disant de bonheur ou apparences soi-disant de malheur en tant que voilà, le malheur c'est ça, le bonheur c'est ça. Non, tout ça c'est. On sait que on traverse. On sait que un problème peut se pointer dans l'heure qui suit, on se raconte plus d'illusions. Si on comprend profondément l'impermanence, on ne sait pas ce qui nous attend au coin de la rue, là ce soir, là demain, là après-demain. On ne sait pas ce qui peut. Mais on sait que ça peut arriver, que tout peut arriver. Les bonnes situations, les bonnes choses, les mauvaises choses peuvent arriver, et puis en un clin d'œil. Mais par contre, le chemin nous invite à voir que plus on s'entraîne, plus on développe de la sagesse, de la créativité qui fait qu'on sait. On sait qu'on en a vu d'autres. et qu'on va traverser ça. Et ça nous rend joyeux. Ça nous rend très paisible, très confiant. Et puis bien sûr, à notre niveau, c'est petit à petit, et puis il y a encore plein de problèmes qui nous mettent KO. Mais le chemin, c'est ça. L'entraînement, c'est ça. C'est de voir qu'un problème se laisse travailler. Tous les problèmes se laissent travailler. Comment je peux utiliser les enseignements justement pour voir le problème sous un autre angle, etc. Et alors, il y a des gens, quand je parle de ça, la question qui vient et qui est tout à fait légitime, c'est de dire bah ouais, mais qu'en est-il des souffrances extrêmes? Qu'en est-il des. Voilà, quand il nous arrive vraiment la grosse tuile, une grosse maladie ou vraiment quelque chose de très très grave. Tout ça, c'est bien beau, mais. Quand on dit se libérer de toutes les circonstances, est-ce que ça tient la route quand, bah voilà, ça peut aller loin, quoi, les agressions, la torture, les choses comme ça. Est-ce que ça va vraiment nous aider? Évidemment, il s'agit d'un entraînement, et on s'entraîne avec des petites choses. Mais il y a aussi l'éveil est envisagé comme une libération de toute souffrance, c'est-à-dire non conditionnée. D'ailleurs, quelqu'un qui a réalisé l'éveil, plus rien ne peut le blesser, plus rien ne peut entamer sa paix, et c'est difficile à concevoir. Dans le dharma, on va parler de la sagesse. On va parler de la sagesse et de l'ignorance. On dit donc la cause fondamentale du samsara, la cause fondamentale de la souffrance, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et parfois on dit la vue dualiste. On dit la vue dualiste. On fonctionne en mode dualiste. Moi, toi. On s'envisage comme un moi séparé des autres. Et il semblerait que ce soit ça la cause de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de toutes nos souffrances, de toutes nos peines, et pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Pour le monde entier, la cause, c'est ça, c'est ce malentendu sur comment sont les choses, ce bug dans notre fonctionnement qui fait qu'on voit les choses en mode dualiste. Mais quand on nous dit ça, on est bien avancé, quoi. Parce qu'on ne connaît pas autre chose. On ne connaît que ça. On ne sait que. Voilà, quand on perçoit le monde, on le perçoit en tant que il y a moi, il y a toi. Et c'est pour ça que la sagesse, bah, quand on nous en parle, c'est très difficile à comprendre. Parce que du coup, c'est pas que c'est difficile à comprendre. On peut nous dire, oui, il existe un autre mode de fonctionnement. Déjà, et c'est ce qu'on nous dit. Quand on parle de la sagesse, on dit, il existe un autre mode de fonctionnement qui n'est pas la vie dualiste. La vie dualiste est un mode de fonctionnement erroné. C'est un malentendu. Donc il existe autre chose, ok, on peut le comprendre intellectuellement. Mais si on le comprend, intellectuellement, ça ne nous aide pas d'un iota dans notre vie de tous les jours. Ça ne va pas nous aider à transformer les situations, de se dire, bah oui, voilà, mode dualiste, etc. Il y a une grosse différence entre comprendre et connaître. Comprendre, ça passe toujours par l'intellect. Connaître, c'est différent. Connaître, dans le sens savoir. Par exemple, s'il y a des sons, je sais qu'il y a un son. Voilà, je connais le son. S'il y a une pensée, je sais qu'il y a une pensée. S'il y a une sensation, je sais qu'il y a une passation. Je le goûte, je le vis. Ça, c'est connaître, ça, c'est savoir. Comprendre, bah, ça passe toujours par l'intellect. Si, par exemple, quelqu'un n'a jamais goûter le sel, on peut lui expliquer par mille façons qu'est-ce que le sel pour qu'il puisse l'approcher, voilà, pour le comprendre. Mais une fois qu'il l'aura goûté, ça change tout. Il y a une grosse différence, il y a un fossé entre connaître le sel et comprendre le sel. Et la vue dualiste, c'est pareil. on peut comprendre qu'il existe un autre mode de fonctionnement que l'individualiste, de comprendre que le moi n'est pas séparé du reste, mais entre le comprendre et le vivre, c'est très différent. Par contre, on va quand même en parler parce que il faut qu'on ait quelque part, il faut qu'on sache à peu près où est-ce que ça nous emmène. Déjà, ça nous dit quelque chose, ça nous permet de nous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas remettre ça en question ? S'il existe autre chose, bah tiens, je pourrais envisager que mon mode de fonctionnement, moi-toi, ce soit pas le seul mode de perception. Alors, souvent, les enseignants utilisent l'image de l'espace pour parler de l'esprit. Quand on parle de notre esprit, voilà, quand on parle de comprendre ce qu'on est, notre esprit, on parle aussi d'être conscient. Esprit, conscience, c'est pareil. Dans le contexte bouddhiste. Où on parle de faire d'expérimenter. C'est ce qu'on est. L'esprit, c'est ce qu'on est. L'expérience, c'est ça qu'on est. On est expérience. Qui dit expérience, dit conscience. On ne peut pas faire des expériences sans être conscient. Et inversement, on ne peut pas être conscient sans faire une expérience. C'est conscient de. C'est toujours conscient de quelque chose. Même s'il ne se passe rien, bah on est conscient qu'il ne se passe rien. On sait qu'il ne se passe rien. Je ne suis pas encore habitué à ma visière. Comment on appelle ça quand on... quand on passe le permis, avoir la conscience de l'espace du véhicule, ça a un nom, ça. Je sais plus comment ça peut. Enfin, là, c'est pareil, j'ai pas encore intégré cette autre partie de moi.
Ma carrosserie.
Ma carrosserie. Bon, ça va, vous tenez le coup, là ?
Oui.
Ouais, ça va. Mais je commence à être chaud, là. Donc dans le dharma, on va essayer d'approcher ce que nous sommes. Et ce qu'on nous dit, c'est ben, ce que nous sommes profondément, c'est conscience. Nous sommes conscience, nous sommes esprit, c'est-à-dire on fait sans arrêt des expériences. On est en expérience, sans arrêt. Ou alors on utilise le terme connaissance. On est en connaissance, on ne peut pas s'empêcher de savoir. Quand il y a une pensée, on le sait. Quand il n'y a rien, on le sait. Même quand il n'y a rien, même quand il ne se passe rien, bah c'est une expérience. Quand il y a des pensées, on le sait. Quand il n'y a pas de pensées, on le sait. Quand il y a des sensations, on le sait. Voilà, on est sans arrêt conscience. Et cette conscience est illimitée. Elle n'a pas de début. Elle n'a pas de fin. On ne peut pas lui trouver une origine. Peut-être on pourrait se dire, bah oui, elle est apparue au moment où je suis sorti du ventre de ma mère. Mais on ne s'en rappelle pas. Ou alors on pourrait dire, bah non, c'est peut-être avant le moment, où c'était peut-être déjà quand j'étais dans le ventre de ma mère. Mais ça non plus, on ne s'en rappelle pas. Ou alors c'était peut-être au moment de la conception. On ne s'en souvient pas en tout cas. On a peut-être des théories là-dessus. Mais quand on cherche un début à l'esprit, personne ne le trouve. On ne sait pas quand tout ce truc a commencé. Et puis du point de vue bouddhiste, ça va aussi nous dire l'esprit n'a pas de fin. En tout cas, dans notre expérience, on n'en voit pas. On pourrait dire ça s'arrête à la mort, mais personne n'est revenu pour en parler. Tout ce qu'on voit, c'est que ça continue. Même quand on s'endort, eh ben, ça se manifeste à travers les rêves. Notre corps biologique est en stand-by, notre esprit s'en fout, il se fabrique un univers, ça continue cette expérience. Et puis on se réveille. Tous les jours, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe ? Et on fait l'expérience de se réveiller. Il y a eu un coma, mais ça réapparaît. C'est sans début ni fin, et les maîtres disent c'est semblable à l'espace. C'est vaste comme l'espace. Et c'est une image qui parle bien parce que l'espace, ça contient tout, mais en même temps, on ne peut pas dire c'est quelque chose. On ne peut pas le prendre avec des pincettes et dire ça, c'est l'espace. On ne peut pas le localiser, on ne peut pas le mettre dans une boîte. L'espace est partout. Et ce qui se passe, c'est que le gros malentendu, le drame, c'est qu'on ne voit pas qu'on ait cette conscience illimitée. On voit cet espace. Et au sein de cet espace, même les gros trucs sont des petits trucs. Même la Voie lactée, au sein de l'espace, c'est microscopique. Et bien la conscience est pareille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où on dit « je suis », on prend un tout petit échantillon de cet espace et on dit « ça, c'est moi ». Et non seulement on limite notre ce que nous sommes à quelque chose de tout petit, mais en plus, on commence à dire « le reste, c'est les autres, c'est autre ». Et là, on devient complètement fou, littéralement. On devient complètement fou parce que du coup, tout ce qui est autre est envisagé comme soit menaçant pour moi. Oh là là, tout ça, c'est par rapport à moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc tout ce qui est envisagé comme pas bien, on s'efforce de le mettre de côté, on s'efforce de le fuir, on s'efforce de le détruire, on ne veut pas le rencontrer. Et tout ce qui est envisagé comme bien, on court après, en espérant qu'une fois qu'on l'aura, on sera tranquille, on sera heureux. Puis une fois qu'on l'a, on a peur de le perdre. Vous voyez, comme un chat qui essaierait d'attraper sa queue. On court après nous-mêmes, ou alors on se canarde nous-mêmes. On ne comprend pas que ce qu'on envisage comme le moi n'est pas séparé fondamentalement du reste. Et de cette conception, de ce bug, on pourrait dire, c'est une sorte de virus informatique, fait que au lieu de s'envisager comme nous, on se prend pour quelque chose de tout petit et puis tout le reste c'est autre. Et c'est terrifiant. D'ailleurs on tourne en rond sans arrêt. On est sans arrêt inquiet, soulagé. Oh, une bonne chose, oh, une mauvaise chose, oh, une bonne chose, oh, une mauvaise chose. Et on n'en sort pas. Et du point de vue, et ce que nous dit l'enseignement, c'est que en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que les choses se arrivent. Le fait d'être heureux ou malheureux ne dépend pas de ce qui se passe. Il dépend de comment on perçoit les choses. Comment on vit les choses. Et si on comprend ça profondément, on a une sorte de super pouvoir. C'est-à-dire, on sait qu'on peut s'en sortir, on sait qu'on peut gérer ça, que ça dépend plus des choses, ça dépend plus des situations, ça dépend plus des bonnes situations, ça dépend plus des mauvaises situations, ça dépend de nous. Et c'est tout le propos du Dharma. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler sur la situation, mais on voit que travailler sur la situation, ça ne suffira pas. Il faut qu'on travaille sur... Il va falloir qu'on s'occupe de cet esprit, de comment on vit les choses, comment on perçoit les choses. Alors maintenant, je vais vous laisser tranquille avec la sagesse. Parce que la sagesse, c'est... Il y a des enseignements, en fait, qui nous introduisent directement à ce que nous sommes, pour nous permettre de comprendre pleinement la nature de ce que nous sommes, enseignement sur la sagesse. Mais ça ne sert à rien de beaucoup en parler parce que les gens, la plupart du temps, ne comprennent pas. Parce que justement, il n'y a rien à comprendre. Il s'agit de faire une expérience. Par contre, il y a une voie royale, justement, pour quelque part comprendre profondément les choses. Du point de vue de notre vue dualiste, c'est ce qu'on appelle la compassion. La compassion et la sagesse, c'est vraiment les deux, les deux ailes de l'oiseau. Ça nous emmène au même endroit. Mais l'avantage de la compassion, l'avantage de cette magnifique voie, c'est qu'en fait, elle s'adresse directement à quelque chose qu'on connaît très bien, notre illusion. Le Bouddha, qui était un enseignant très habile, dit, les gens se conçoivent comme un moi séparé du reste, on va parler à cette façon de fonctionner. même si c'est une illusion, va parler à cette illusion. Tu t'envisages comme un toi séparé de l'autre, et ben on va établir un rapport à l'autre qui va nous permettre de déraciner toutes nos préjugés, toutes nos a priori, toutes nos croyances erronées par le biais de la compassion. Et tout le propos de cette voie-là, c'est de transformer cette notion de moi et toi en moi et nous. Envisager l'autre, non pas comme étant autre, mais comme étant nous. Et c'est quelque chose que Ringu Rinpoche a beaucoup répété dans les enseignements cet été, les enseignements qu'il donnait en ligne. Et vraiment, ça m'a interpellé parce que c'était la première fois qu'il le formulait comme ça. Il y a beaucoup de façons d'en parler. Hein. Mais lui, il le répétait souvent comme ça. Transformer le « moi, toi » en « moi, nous ». Et je vous invite vraiment à vous le répéter ça. Parce que en fait, ça vise à nous faire naître une expérience. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de « moi » par rapport à toi ? Qu'est-ce qui se passe quand je m'envisage comme étant « nous » ? Moi, il peut, rien que par ça, quand on est dans les transports, quand on est parmi les gens, quand on est avec les proches, rien que cette façon de se switch, rien que de se le dire, ça peut provoquer quelque chose dans notre perception des choses. Alors ça nous amène à la notion de bodhisattva. Dans la prière qu'on récite, la prière de refuge, à la fin de la prière de refuge, on dit « Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres ?» Le don et les autres vertus, c'est justement les six paramitas. C'est les six vertus dont on va parler jusqu'au mois de décembre. La générosité, la conduite éthique, la patience, la persévérance, parfois on dit l'effort joyeux, la méditation, pour la méditation c'est celle que tout le monde connaît d'emblée, c'est chiné en fait. Aujourd'hui on l'appelle volontiers la pleine conscience, c'est-à-dire en fait la pleine conscience c'est né de chiné. Et puis la sagesse dont je viens de parler un peu. Et on dit par ma pratique du don et des autres vertus puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. On introduit l'idée que l'éveil c'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Et ça, c'est très propre à la voie des bodhisattvas. Le bodhisattva, c'est celui qui souhaite réaliser l'éveil, pas seulement pour lui-même, mais pour être à même d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance, à se libérer de leurs problèmes, à se libérer de leurs contrariétés, de leurs difficultés. Et pas seulement ça, le bodhisattva aspire à emmener tout l'éveil vers le bonheur parfait. C'est-à-dire pas seulement un bonheur pour cette vie, un bonheur temporel, mais une paix, une joie, un bonheur définitif. Et on dit que celui qui a cette aspiration-là, ne serait-ce qu'une minute, le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance, les amener tous vers l'éveil, quel que soit le temps que ça prendra, quelle que soit la difficulté que ça prendra, on dit que celui-là est un bodhisattva. Et que celui-là est condamné à réaliser l'éveil, même s'il ne le veut pas. Parce que c'est cette aspiration qui fait le Bouddha. Et bien sûr, c'est un mot bouddhiste, bodhisattva, mais ça se cantonne pas. Il y a des bodhisattvas partout. On dit qu'il y a des bodhisattvas partout dans le monde, et partout en dehors du monde. Il y a des bodhisattvas partout, chez les hommes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur tradition. On dit qu'il y a aussi des bodhisattvas chez les animaux, À partir du moment où un être a cette aspiration, je souhaite libérer tous les êtres de la souffrance et les emmener tous vers l'éveil, quel que soit le temps que ça prendra, il rentre dans la catégorie des bodhisattvas. On devient un bodhisattva à ce moment-là. Et il y avait beaucoup d'étudiants du Bouddha. Le Bouddha avait beaucoup de disciples qui ne pouvaient pas entendre ça. C'est inconcevable. C'est inconcevable du point de vue de l'ego. Quand on s'envisage comme toi, moi, mais attendez, qui suis-je pour pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance? Déjà que moi, mes problèmes, j'ai du mal à les gérer, alors les autres, voilà, on va d'abord s'occuper de moi, puis ensuite on verra, quoi. Mais du point de vue de l'ego, c'est complètement... C'est impossible, c'est inenvisageable, du point de vue de cette conception de moi séparé du reste. Alors, le Bouddha, qui le comprenait très bien, a donné beaucoup d'enseignements qui permettent la libération individuelle. Et c'est ce qu'on appelle le véhicule des auditeurs. Avant, on disait le petit véhicule, mais maintenant, les maîtres n'utilisent plus ce nom-là parce que ça, il y a un côté un petit peu qui pourrait nous faire envisager le petit véhicule comme un véhicule inférieur. Non, petit véhicule, ça veut dire c'est un véhicule monoplace. C'est ma libération individuelle. Voilà, c'est véhicule restreint à moi-même. C'est le véhicule qui m'emmène vers l'éveil. Mais je me contente de me libérer de la souffrance parce que c'est pas parce que le véhicule des auditeurs est c'est pour les égoïstes. C'est juste que on n'envisage pas qu'on puisse être capable d'aider tous les êtres sans exception. C'est tout simplement ça. Mais si par exemple on est capable d'entendre ça, même de le dire, de le penser, puisse-je être capable de libérer tous les êtres de la souffrance, même si ça nous paraît, on voit pas trop comment, mais simplement si on est capable de l'entendre, on devient candidat à la voie des bodhisattvas. On devient candidat à ce type d'enseignement. Et dans ce type d'enseignement, on va s'entraîner à voir qu'on peut le dire, on peut même le penser profondément, on peut aspirer profondément, et si on a cette aspiration, on aura le fruit conformément à cette aspiration. L'aspiration fait le fruit. Si on aspire à se libérer individuellement de la souffrance, on aura le fruit, l'état d'arhat, celui qui a vaincu les ennemis, c'est-à-dire ses propres émotions perturbatrices, celui qui a maîtrisé son esprit, l'état d'arhat. Donc on dit le vainqueur. Si on en arrive là, c'est déjà énorme. Mais le bodhisattva, c'est celui qui envisage de devenir un Bouddha. Le Bouddha, c'est celui qui... La différence avec l'arhat, c'est pas seulement quelqu'un qui s'est libéré de la souffrance. Le Bouddha, il a les moyens habiles, ce qu'on appelle les upaya. Et c'est ça qui fait la différence entre un Bouddha et un arhat. C'est le Bouddha, il a toutes les capacités, tous les moyens habiles de venir en aide à tous les êtres sans exception. Mais pour devenir Bouddha, il faut avoir l'aspiration qui crée le fruit. C'est-à-dire l'aspiration de ne pas se limiter à quelqu'un avec des petits moyens, mes problèmes, ma libération, etc. D'envisager qu'on puisse être capable d'amener tous les êtres vers l'éveil. Et cette aspiration nous donnera ce fruit-là, d'être un Bouddha, le plein éveil. Et toute la voie du Bodhisattva, c'est une approche basée sur la compassion. On s'entraîne à déplacer le focus de moi vis-à-vis de toi à moi vis-à-vis de nous. L'autre, c'est nous. On n'est plus un système isolé. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense a des répercussions sur le monde, et tout ce que le monde dit, fait ou pense a des répercussions sur nous. On s'établit on observe l'interdépendance des phénomènes. Et la compassion, elle va naître quand on comprend que on se souhaite profondément d'être heureux. Si on regarde honnêtement, on souhaite tous être heureux. Et plus que ça, on souhaite non seulement être heureux, mais on souhaite
le bonheur parfait, pourquoi pas. On souhaite tous avoir une vie la plus réussie possible. On souhaite tous rencontrer le moins de problèmes possible. On souhaite tous que nos problèmes solutionnent, que tous nos problèmes trouvent des solutions, qu'on trouve un bonheur absolument définitif, pourquoi pas. On l'envisage pour nous. On se le souhaite en tout cas. Et on le souhaite aussi à nos proches. On est capable de beaucoup d'amour pour nos proches. On est capable de leur souhaiter le bonheur et leur souhaiter d'être libre de la souffrance. Mais on est toujours limité par cette conception de moi autre. Puis dans le moi, il y a les miens, mon clan, mes proches, ceux que j'aime, ma famille, mon chien, mon chat. Mais on limite notre amour à ça. Il y a toujours une dimension de clivage qui apparaît. Il y a le camp des miens et puis il y a l'autre. Et l'autre, dès qu'on envisage l'autre, notre amour devient moins inconditionnel. On ne sait pas aimer inconditionnellement. Alors quand on entend, quand on parle d'amour dans le bouddhisme, il y a des gens qui disent qu'on ne parle pas d'amour dans le bouddhisme. Il y a des gens qui disent que vous parlez beaucoup de compassion, mais vous ne parlez pas d'amour, mais en fait, c'est faux. La compassion et l'amour, c'est très lié. Et puis, je pense profondément que quand on parle de l'amour du Christ, l'amour chrétien et l'amour bouddhiste, quand on comprend de quoi il s'agit, quand on vit cet amour-là, il n'y a pas de différence. Quand on parle d'aimer, alors il y a une définition très simple dans le bouddhisme, c'est souhaiter que l'autre soit heureux. On souhaite que l'autre soit heureux. Et la compassion, on souhaite que l'autre ne souffre pas. Mais ça va très loin, hein. Si on y réfléchit bien, souhaiter que l'autre soit heureux, ça peut aller très très loin. Et on dit dans le Dharma, tout le monde est capable de cet amour. Cet amour, c'est ce que nous sommes. On ne cherche pas à développer l'amour dans le Dharma. On part du principe que nous sommes amour. Nous sommes amour illimité. Simplement, on ne le reconnaît pas. Et cet amour, il ne peut pas s'exprimer librement, largement, parce qu'il y a plein de choses qui viennent l'empêcher de s'exprimer. La colère, la jalousie, l'avidité, l'attachement. Toutes ces choses-là, en fait, voilent notre potentiel d'amour. Mais même chez les gros durs, même chez les méchants, il y a toujours une faille. Il y a toujours cette faille-là. C'est-à-dire, en fait, profondément, tout le monde souhaite aimer et être aimé. Et même chez les gros durs, si on gratte un peu, on va voir qu'ils peuvent se montrer très insensibles, mais ça va peut-être se manifester vis-à-vis de leurs petits chiens. Pour qui ils ont un amour infini, pour qui ils sont prêts à tout donner, à tout sacrifier. Les gens n'aiment pas trop qu'on parle de sacrifice, mais en fait, dans la voie du Bodhisattva, on en parle d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, quand on aime quelqu'un, tout le monde fait des sacrifices pour les gens qu'on aime. On est capable de beaucoup de sacrifices et on le fait très naturellement. C'est quelque chose en fait de très banal, de très commun, de donner, de sacrifier son énergie, son temps, son argent, et quelque part on le subit pas. C'est vraiment le sacrifice au bon sens du terme, c'est-à-dire on est prêt à prendre sur soi, à sa petite zone de confort, on est prêt à truc parce que ça nous rend heureux de voir l'autre heureux. Et ça se fait tout le temps, partout. C'est très banal en fait, ce truc. Simplement, c'est toujours limité à ceux qu'on aime, voilà, nos proches, toujours dans la sphère du moi. Et la voie du Bodhisattva, c'est de nous montrer que cet amour là on peut l'étendre à tous sans exception, parce qu'après tout, pourquoi on le réserverait à nous ou à nos proches? Ils ne méritent pas plus d'être heureux que les autres, on ne mérite pas plus d'être heureux que les autres. On cherche tous le bonheur, on cherche tous à être libre de la souffrance, donc pourquoi on limite ce souhait à nous-mêmes et nos proches? ce que disent les enseignements, c'est en fait ce qu'on veut par-dessus tout, c'est aimer et être aimé. Alors être aimé, moi j'ai pas trop de problème à le comprendre. Oui, bah oui, j'apprécie d'être aimé, quoi. Pas de souci à ce niveau-là. Aimer, ça peut interpeller. Pourquoi on souhaite aimer? Pourquoi on nous dit qu'en fait ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est aimer? Ben, c'est justement pour nous faire comprendre que c'est ce que nous sommes. En fait, quand on aime, on est en contact avec ce que nous sommes réellement. Donc, on aime aimer parce que c'est ce que nous sommes. Et finalement, on est très contrarié quand on est en impuissance d'aimer. On est en impuissance d'aimer justement quand on éprouve de la colère, quand on éprouve de la haine, quand on éprouve de la jalousie. On peut pas dire que c'est des sentiments qui soient confortables quand on les vit. On pourrait toujours dire que oui, la colère, c'est justifié, on peut dire que c'est légitime, on peut dire oui, mais là j'ai une colère juste. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on voit, c'est quand on est sous la prise de la colère, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. C'est pas un sentiment qui est agréable. Parce que précisément, dans la colère, on se retrouve en impuissance d'aimer. On ne peut plus exprimer notre amour quand on est en colère. C'est son contraire. Il ne peut pas y avoir d'amour et de la colère en même temps. C'est contradictoire. La haine et l'amour s'opposent. Et on n'aime pas ça. Et toute la voie du Bodhisattva, c'est de nous apprendre comment aimer inconditionnellement. Et il y a des gens qui vont dire, bah ouais, mais quand j'ai trop de compassion pour les autres, bah du coup, je m'occupe pas de moi. Et donc du coup, je m'occupe pas assez de moi. Et donc du coup, il y en a toujours pour les autres, mais j'en ai assez. Voilà, comme ça. Et Ringo Rinpoche, à qui on avait posé cette question, il disait, mais alors du coup, vous faites comment pour vous occuper de vous? Sous-entendu, la meilleure façon de s'occuper de soi, c'est justement d'arrêter de se focaliser sur un moi séparé du reste. Il est là le problème. C'est quand on s'envisage comme séparé du reste, bah du coup c'est légitime de s'occuper de soi, c'est légitime de s'occuper de ses propres intérêts avant ceux des autres. Et d'abord je vais me préoccuper que de mes intérêts et je pense que c'est comme ça que je vais être heureux. Mais là l'idée c'est plus quand je m'occupe des autres, je m'occupe pas de moi. Bah là on est encore dans une séparation, il y a moi et les autres. Alors que l'idée de Bodhisattva c'est moi et nous, et dans nous il y a moi. C'est-à-dire, en me préoccupant de nous, je m'occupe de moi. C'est la meilleure façon de m'occuper de moi. En prenant en considération le bonheur des autres, en prenant en considération leur souffrance, c'est la meilleure façon. C'est-à-dire, ça me met en contact avec ce que je suis. Amour, et rendre cet amour effectif. Comment justement briser cette séparation entre moi et autres. Faire que cette frontière n'existe plus. Et on va voir qu'on sera les premiers servis de ça. On sera les premiers servis de ça parce qu'on sera en contact avec notre propre nature qui est d'aimer l'autre et d'exprimer de la compassion pour l'autre. Voilà, et ça va être tout le propos des vertus. Donc je pense que ce soir je vais m'arrêter là, je vais pas entamer par un peu une introduction quoi. Voilà, c'est à ça que vont servir ces vertus. Générosité. Donc voilà, toutes ces vertus vont nous inviter à transformer ce rapport à l'autre, à nous l'englober dans le nous, à travers la générosité, à travers la conduite éthique. Bah oui, qu'est-ce qu'il faut? La conduite éthique, c'est qu'est-ce qui est source de souffrance? Oui, donc je le rejette. Et qu'est-ce qui est bénéfique à autrui, et donc j'adopte la conduite éthique. C'est très important de s'entraîner à voir les problèmes comme des opportunités. La patience, c'est pas j'attends que ça passe en espérant que ça passe vite quoi. On a un peu cette notion là, patience dans le sens non, c'est pas ça la patience. La patience, c'est justement cette, une circonstance favorable ou défavorable arrive, à voir comme un problème. Comment je... de façon à apprendre comment la traverser, comment la voir sous un autre point de vue. Comment en tirer, voilà. Ensuite, l'effort joyeux, cultiver de l'enthousiasme pour le bien. On a beaucoup de facilité à cultiver de la joie pour nos activités, nos loisirs, que ça peut être l'art, ça peut être le sport, ça peut être le relationnel, etc. Et ben, on voit qu'on peut aussi tirer une joie profonde dans l'accomplissement du bien, c'est-à-dire en se tournant dans cet état d'esprit de se soucier du bonheur de l'autre et de se soucier de comment résoudre, atténuer sa souffrance, de voir qu'en fait ça nous nourrit. Donc voilà, l'effort enthousiaste, la méditation, vous connaissez, c'est chiné, et puis la sagesse, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, plus profondément. Voilà le programme. Est-ce que ça, vous avez des questions?
Moi j'avais une. Tu as parlé tout à l'heure de l'éveil pour un arhat, de l'éveil complet pour un arhat.
Ouais.
Un atteint l'éveil pour soi. Et de l'éveil. C'est plus une réflexion qu'une question. Une fois que l'arhat a atteint l'éveil, qu'il est complètement libéré de la souffrance, qu'à ce moment-là, c'est pas sourire à
les autres. Si. C'est un autre chemin, mais en fait qui va finalement mener à la même chose, parce qu'une fois que la personne aura résolu tous ses problèmes, bah, naturellement, elle va se tourner vers autre chose. C'est ça que le grand véhicule récupère le véhicule des auditeurs en disant, bah, de toute façon... Et puis, il ne s'agit pas en fait de nous dire de choisir entre l'un ou l'autre. En fait, dans notre vie, même au quotidien, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon l'humeur, selon comment on se sent, eh ben, on va choisir tel ou tel véhicule. Parfois, voilà, on va se lever le matin, la tête dans le coltard, voilà. Ou alors, au fur et à mesure de la journée, là, je me sens bien, mon esprit commence à s'ouvrir, il y a une dimension de compassion qui va apparaître, hop, grand véhicule, hop, on commence à prendre la voiture ou le bus. Et puis après, il y a le véhicule du Vajrayana, où là, c'est véhicule supersonique, mais par contre, il faut savoir le conduire. C'est vraiment, on ne peut pas nous mettre à bord d'un hélicoptère si on ne sait pas le piloter. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas tenu de se cantonner à un véhicule. Parfois, ça dépend des humeurs, ça dépend des jours, ça dépend des mois, des périodes comme ça où... Allez, l'idée, c'est de prendre dans les enseignements du Bouddha, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce qui m'est... qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. Voilà, ça peut être juste chiné, ça peut être juste, pas comprendre, et ben le source de souffrance pour les autres, faire attention aux autres. Des choses très très simples. C'est pas un, dans le dharma, c'est pas une sorte de kit complet, soit tu prends pas. Il y a tellement, c'est tellement vaste, on pourrait passer sa vie à étudier le dharma qu'on n'aurait pas saisi le, on n'aurait pas embrassé le quart. L'idée, c'est qu'est-ce et surtout que je peux mettre en application, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils étudient la suite. Ok, je comprends. La suite. Ok, je comprends. La suite. Mais du coup, on va nulle part comme ça. On bouffe du dharma en écran. Mais on prend pas le temps de se dire, ça, je comprends. Ben, si tu comprends, mets en pratique. L'idée, c'est de mettre en pratique, c'est qu'une fois qu'un enseignement qui paraît très simple, ça peut devenir notre... On peut devenir expert. Et c'est ça l'idée. On travaille, on le digère et on devient expert en ça. Et parfois ça suffit. Une méthode suffit. Donc, ouais, voilà. C'est...
Tout à l'heure, tu disais nous sommes conscience. Et tu as dit science, toujours que conscience fait penser à la vacuité.
Non, pas dans ce contexte-là. Il y a bien sûr un lien, mais là, du coup, dire ce synonyme, ça fait rapprocher deux notions qui parlent de choses complètement différentes. Mais c'est vrai que quand on dit conscience, on parle donc de ce que nous sommes, de cette faculté de savoir en permanence. Que cette faculté qu'on prend pour un moi, et ben en fait cette faculté n'est pas quelque chose. Il y a conscience n'implique pas quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui sait. Il y a savoir n'implique pas quelqu'un qui est en train de savoir. Sinon, c'est ça la dimension. Il y a conscience, il y a expérience, on peut pas dire qu'il y a rien et pas quelque chose. C'est pour ça qu'on utilise l'image de l'espace. On peut pas nier qu'il y a espace, mais montrez-le-moi. Montrez-moi le... Il y a un Cohen comme ça, Zen, qui dit « Montrez-moi le bleu du ciel. » Où commence le bleu du ciel ? On dit l'espace pour parler de... Parce qu'il faut en parler. Mais c'est un mot qui ne désigne pas quelque chose, l'espace. La conscience, voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a expérience. On éprouve de la joie, on éprouve de la peine, on éprouve des couleurs, on voit, on sent, on ressent. Et pourtant... Cette conscience, on ne peut pas lui donner, on ne peut pas la localiser quelque part dans le corps. Est-ce que c'est dans le nez? Est-ce que c'est dans les doigts? Est-ce que c'est dans les terminaisons nerveuses? Est-ce que c'est dans une cellule particulière qui serait l'intérieur? Personne n'a trouvé, n'a pu prendre la conscience avec une pincette en disant, eh voilà, ça, c'est ça.
On peut concevoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir.
On peut?
On peut concevoir qu'il y a des choses qu'on peut ne pas saisir, qu'il y a des choses que... Ce que tu viens de dire juste avant, là, c'est pas tel mot, mais tu avais compris, c'est penser à autre chose. Quand
oui, on voit, on ressent.
On ressent,
oui.
Mais en même temps, ces choses n'existent pas comme on a l'habitude. C'est quelque chose qui est présent, qui est, point.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça le propos.
C'est comme ça.
De voir que ce qui nous apparaît
ouais.
n'est pas tel que ça nous apparaît.
Ouais.
On perçoit les choses parce que on perçoit les choses à travers nos sens. On est notre conscience, en tout cas, à l'état de veille, elle passe par une interface biologique. Le fait de voir, en fait, la conscience ne peut pas voir. Par elle-même. Elle a besoin de passer par l'interface, les organes visuels, puis tout l'environnement. Ça envoie un signal au cerveau qui est compatible à la conscience. Mais la conscience par elle-même, sans cette interface, ne pourrait pas faire l'expérience du monde.
On voit bien des fois comment on se gourre, parce qu'on dit... On est persuadé que ce jour-là, à cet instant-là, la personne était habillée en rouge. Mais non, elle n'était pas habillée en rouge, en fait. Tout le monde dit qu'elle était habillée en couleur. On en était persuadé. Moi, ça m'arrive des fois quelque chose comme ça. Je t'ai vu, tu avais un pantalon. Mais non, je n'ai pas de pantalon. Donc, ce petit exemple-là, sur un truc de la vie de tous les jours, on peut concevoir que ça s'étend beaucoup plus.
Bah oui.
Dans notre conscience,
même
dans notre
inconscient. Si par exemple, la police... débarque et nous interroge tous en lui disant qu'est-ce qui s'est passé ici pendant l'heure et truc, et ben on a tous vécu le même moment, mais on aura chacun une version différente. Mais après tout, c'est notre seule réalité.
C'est comme ça.
Mais c'est juste qu'il faut comprendre que c'est une réalité qui est quand même relative. Voilà. Elle n'est pas telle que les choses sont, elles sont telles qu'elles m'apparaissent. Mais là, on part loin, là. On va...
Ouais. J'ai une question. Tu exprimais bien tout à l'heure le fait que la compassion et la sagesse soient les deux ailes du Bodhisattva. Et pourquoi la compassion n'est pas dans les six paramitas et par contre la sagesse y est ?
Eh bien, en fait, la compassion y est. C'est en fait les cinq paramitas. Générosité, éthique, patience... diligence, méditation, on appelle ça les moyens habiles, la compassion, et puis ensuite la sagesse. C'est pas aussi strict que ça comme truc, parce que par exemple on voit que dans l'effort enthousiaste c'est mélangé, dans la méditation aussi c'est mélangé, il y a compassion et sagesse. La générosité, c'est plus pour travailler sur la compassion, c'est-à-dire les moyens habiles. On va parler des moyens habiles. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà, bah, on va faire la dédicace, comme ça je vais pouvoir enlever ma visière.
Je vais devoir remettre le masque, je sais pas si
c'est finalement, je préfère le masque. Ouais. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Merci.
Merci. Merci.